Bonjour mes frères et sœurs, ouvrons le Saint-Livre, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains. Vous avez entendu la prière de notre frère, il exprimait dans sa prière qu'il y a une approche intellectuelle des choses de Dieu, il y a une approche sentimentale. Il y a des gens qui font tout d'une manière sentimentale parce qu'ils sont sentimentaux. Il y a des gens qui sont d'une manière intellectuelle, dont ils font les choses de manière intellectuelle. Mais les chrétiens, ils devraient ouvrir leur cœur afin de faire les choses de manière spirituelle. La vie avec Dieu, c'est la vie spirituelle. Ce n'est pas la religion, la tradition, c'est quelque chose de très sérieux. Dans Romains, au chapitre 1er, déjà l'église de Rome au 1er siècle n'était pas mieux, croyez-moi. Nous, on sait que les choses s'aggravent, mais regardez ce qui est dit. Vous savez que la Bible parle de la grâce et nous sommes dans la dispensation de la grâce qui va très bientôt s'achever. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Et la colère de Dieu va venir. Vous le croyez aussi? Lisez avec moi dans Romains au chapitre 1er, au verset 18. On va lire jusqu'au verset 11 du chapitre 2. C'est une longue lecture, je vous encourage à la faire ou la refaire très sérieusement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frères et sœurs. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ce qu'ils les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Vous pouvez garder cette page, nous allons aller dans le début de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Juste au début, ce grand livre qui nous parle de ce qui va arriver une fois que l'Église sera enlevée, car presque tous les chapitres de la Bible concernent ces temps où l'Église ne sera plus sur la terre. Dieu a voulu que nous les connaissions. Ce sont des textes que vont lire certainement toutes les vierges folles. Tous ceux qui ne se sont pas préoccupés de se préparer à rencontrer Dieu vont certainement se réfugier dans l'Apocalypse après l'enlèvement. S'il y a bien un moment où le livre de l'Apocalypse sera lu, c'est certainement après l'enlèvement de l'Église, croyez-moi. Croyez-moi. Dans ce livre, au chapitre 1er, au verset 1er, il nous est rappelé que c'est Dieu qui parle. Dieu a voulu que nous ayons ce merveilleux livre. Pour nous, c'est une grâce, ce livre. Ce livre ne doit pas vous inquiéter, sinon vous aider à vous préparer à rencontrer Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré, que Dieu a donné, pardon, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Heureux, regardez bien, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Heureux celui qui lit l'Apocalypse, qui le lit, qui l'écoute, qui comprend, qui ne part pas dans tous les sens, bien sûr, mais qui réalise que ce qui va arriver lorsque la patience de Dieu sera terminée. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps extrêmement compliqués. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les hommes seront fanfarons. L'apôtre Paul l'a repris différemment à Timothée qu'aux Romains, mais c'est pareil. Les hommes en arrivent même à être ingénieux au mal. Enfin, ça, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Donc, la colère de Dieu va venir. Mes frères et sœurs, personne ici, personne, à part ceux qui comprennent les prophéties et qui les croient. Vous y croyez aux prophéties? Il y a des gens qui relativisent, comme on dit. Mes frères et sœurs, ce qui est écrit, ça va arriver. Tout ce qui est écrit, ça va arriver. C'est le seul livre prophétique, la Bible, qui permet de comprendre que tout ce qui est écrit va arriver. La grâce va se terminer. Qui sait si ce n'est pas un de nos derniers cultes? Est-ce que ça ne va pas se présenter, cette affaire? Ce moment où nous écouterons la parole de Dieu pour la dernière fois, où le Saint-Esprit nous interpellera, où le Saint-Esprit nous montrera dans quel état nous sommes, dans quel état spirituel nous sommes. Vous savez que, qu'on le veuille ou non, nous sommes ou des vierges folles, ou nous sommes des vierges sages, ou nous sommes sérieux avec les choses de Dieu, ou nous sommes légers avec les choses de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous interpelle et qu'il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, bien sûr qu'aujourd'hui vous pouvez un peu relativisé dans le sens où la porte est ouverte, mais vous ne savez pas si demain vous serez là sur la terre. Vous ne le savez pas. Au chapitre 6 de ce chapitre, de ce livre, pardon, il y a l'ouverture des sceaux, la terreur va venir sur la terre. Je ne veux pas vous faire peur, parce que je sais que si vous êtes au Seigneur, vous n'avez pas peur. Si vous marchez avec Jésus-Christ, vous n'avez pas peur. Bien au contraire, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 6, il y a l'ouverture des sceaux. L'Église a été enlevée. Elle est au ciel pour les noces de l'agneau. Les chrétiens sont revêtus de vêtements blancs, éclatants, de fin lin, purs. Dans les cieux, ils ont reçu leur récompense. Et ils seront dans la gloire pour l'éternité. Ils reviendront régner pendant 1000 ans sur la terre. Ça, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre, mais quand même, c'est écrit. Donc, il y a, après l'enlèvement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chaos qu'il va y avoir. Est-ce que vous réfléchissez, il y a des pays, bon en France je ne sais pas combien on est, combien de chrétiens sont prêts en France? Sérieusement, je ne parle pas qu'ils vont à l'église. Je parle de chrétiens qui sont vraiment des vierges sages. On va prendre cette expression ce matin pour faciliter la compréhension. Qui ont de l'huile dans leur lampe. Combien de chrétiens y a-t-il en France ? De vierges sages. Il y a certains pays, comme les États-Unis par exemple, même s'il y a beaucoup de confusion et qu'il y a un mélange entre la politique et la religion, ce que nous avons nous du mal à saisir, mais c'est quand même une vérité. Il y a énormément de chrétiens. Et lorsque l'église sera enlevée, par exemple au Pentagone, moi j'ai souvent entendu des officiers de l'armée au Pentagone qui ont vraiment la foi, des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ça va mettre le pays en vrac. Et justement, ça va certainement faciliter cette guerre qui se profile en Israël. Et vous entendez tous les jours parler de guerre et de bruit de guerre. Ça ne veut pas dire que vous allez la voir. Cette guerre, on en parle tous les jours. Vous regardez les informations internationales ? Tous les jours, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Jésus l'a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas effrayés. Pourquoi ne soyez pas effrayés ? Parce que vous n'êtes pas concernés. Ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent. Et je redis ce que j'ai déjà dit aux chrétiens qui sont peut-être dans le sentimentalisme, ces chrétiens qui prient pour que le processus de paix aboutisse. Écoutez-moi bien. Ne priez pas. Le processus de paix n'aboutira jamais. C'est un processus de guerre. Est-ce que vous comprenez ? Tout ce qui se passe au Moyen-Orient prépare la guerre de Gog et Magog qui est déterminée par Dieu parce que le monde est en train de, à cause de son iniquité, à cause de son impiété, le monde est en train de lasser la patience de Dieu et la patience de Dieu va se terminer. La colère de Dieu va venir. D'ailleurs, elle est très bien expliquée au verset 16 de ce chapitre 6, une expression qu'un paysan n'accepterait pas. Vous allez comprendre pourquoi. Apocalypse 6, d'ailleurs je me demande ce qu'ils pensent les éleveurs quand ils lisent ce verset, les éleveurs d'agneaux. Apocalypse 6, verset 16, ou alors ils comprennent très très bien. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Écoutez-moi mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qu'un agneau ne fera jamais, un agneau, je parle d'un agneau, l'animal, c'est de se mettre en colère. Si vous êtes un peu de la campagne, faites-moi confiance. Un agneau, il se laisse d'ailleurs égorger, c'est écrit. Sans rien dire. Vous prenez un agneau, vous lui mettez le couteau sur la gorge, vous l'égorgez, il ne bouge pas. Un agneau ne se mettra jamais en colère. Mais Dieu, dans sa souveraineté, pour que nous comprenions bien que cette grâce dont nous sommes l'objet encore ce matin, cette grâce éternelle que Dieu veut donner à tous les hommes, cette grâce qu'on ne peut même pas soupçonner, même si chaque dimanche on chante des cantiques qui nous rappellent cette bonté infinie de Jésus-Christ sur le bois de la croix, cette grâce éternelle, nous la comprendrons certainement très bien lorsque nous serons enlevés et que nous serons avec Jésus-Christ aux noces de l'agneau. Cette grâce, elle va s'achever, la colère de Dieu va venir. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas concernés par la colère. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas concernés par la colère. Les chrétiens, ils sont concernés par la grâce. Les chrétiens, ils sont concernés par la gloire. Les chrétiens, ils sont concernés par la paix. Vous avez entendu le texte de la Sainte Cène. Nous sommes concernés par la paix. On l'a lu dans les Romains. Gloire, honneur et paix à tous ceux qui sont soucieux de vivre une véritable piété. Angoisse, châtiment, colère, un trésor de colère. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Il faut aller y penser. Appeler un trésor de colère. Un trésor de colère. Ça veut dire que les gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ sont en train de s'accumuler une tonne de problèmes par rapport au jour où ils vont être jugés. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes destinés à la gloire. Pourquoi ? Parce que la colère, elle est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que vous entendiez, je ne sais pas, il y en a peut-être qui viennent depuis des mois, des années, qui êtes là. On l'a entendu encore dimanche dernier dans les témoignages, ça faisait des années. On l'entend souvent dans les témoignages, n'est-ce pas Emeline hein? Et pendant des années, j'écoutais la parole de Dieu, je comprenais rien. Quand M. Go prêchait, je comprenais rien. C'est pas ça que vous avez dit? Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Vous l'avez pensé. Mais voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que des fois, pourquoi? Parce qu'il y a un combat, il y a vraiment un combat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais celui qui ouvre son cœur, Dieu l'ouvre, Dieu le bénit. La parole de Dieu, elle n'est pas pour les intellectuels ou pour les analphabètes. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde à partir du moment où l'analphabète et l'intellectuel ouvrent son cœur. N'importe qui peut comprendre. Mes frères et sœurs, nous sommes là. Le monde va bientôt connaître un chaos, que ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des broutilles. Les théologiens qui parlent de l'Apocalypse, les théologiens disent que Hitler, à côté de l'Antéchrist, ça sera un enfant de cœur. Ils le disent presque tous. Compte tenu de ce qui va arriver une fois que l'Église va être enlevée, une fois que la porte de la grâce va être fermée. Alors nous devrions tous ce matin nous poser la question, c'est Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit. Nous voulons justement que le Saint-Esprit nous inonde. Mardi soir, nous ferons une étude, si le Seigneur n'est pas revenu, nous ferons une étude justement sur l'âme lorsqu'elle est malade. On voit plusieurs fois, même David, dans des moments difficiles, qui disait « mais mon âme est malade ». Il a même dit « mon âme est morte ». Pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller mal lorsque notre communion avec Dieu est altérée parce que nous ne sommes pas dans cette communion. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose sur laquelle le chrétien doit veiller, c'est sur sa communion avec Dieu. Comment vous l'entretenez, votre communion avec Dieu? Est-ce que c'est important pour vous d'être en communion avec Dieu ou est-ce que ça c'est pas grave? Seigneur, tu le sais, j'ai pas le temps. Ne vous amusez pas avec ces affaires-là. Que vous ayez pas le temps de faire du sport, c'est pas grave. Que vous n'ayez pas le temps d'aller à la piscine, c'est pas grave. Que vous n'ayez pas le temps de faire à manger, c'est pas trop grave. Ben oui, ça vous est jamais arrivé de manger sur le pouce? Si, bon. Est-ce que c'était grave? Non. Mais s'il y a une chose que nous ne devrions pas accepter, c'est de ternir notre communion avec Dieu. Je le lisais encore ce matin dans le Deutéronome. Veille attentivement sur ton âme. Tous les dimanches. Comment non? Vous êtes sûr, c'est tous les jours? Veillez attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, afin que ces choses ne sortent pas de ton cœur. Quand Paul à Timothée parle de ces gens arrogants, fanfarons, qui ont l'apparence de la piété, tous ces chrétiens que de nom, il parle des chrétiens qui aiment le plaisir plus que Dieu, il va loin. Vous savez le conseil qu'il donne? Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors je pense qu'il faut être ami avec les gens, avec les voisins. Je ne parle pas des impies païens, mais des chrétiens qui sont superficiels. Je pense qu'il vaut mieux faire attention. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Oui ou non? Vous allez me dire, oui, mais monsieur Gauss, si on veut les gagner. Si on veut les gagner, écoutez-moi, vous priez pour eux, pour qu'ils se repentent. Mais on a vu des chrétiens se faire entraîner par des impies. L'impie, c'est le chrétien qui n'a pas de piété. Alors, mes frères et sœurs, la colère vient. Moi, je vous assure, le peu que je comprends de la parole de Dieu, tout ce qui se passe au Moyen-Orient est en train vraiment de préparer une guerre. Ce qui se passe en Europe, la venue des immigrés, je vous le dis parce qu'il faut que vous le compreniez. Tout ça, c'est contrôlé. Tout est contrôlé. Tout ce qui se passe au niveau du gouvernement est calculé. N'imaginez pas que c'est des gens irresponsables. Ils savent ce qu'ils font. Ils poussent le pays à la révolte pour préparer la venue de l'Antichrist. Tout est contrôlé. Et ne vous mettez pas en vrac avec Dieu en critiquant, je le répète, parce qu'il y a des chrétiens qui n'auront pas leur prière exaucée et qui sont tout le temps en train de râler. Mais ça, je pense que peut-être dans cette église, il n'y a plus personne qui râle. Non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui râle? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Oui ou non? Ce soir, vous allez prier. Tout à l'heure, vous allez prier. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Vous n'aimeriez pas que le Seigneur Jésus vous dise, lorsque vous passerez devant lui, « Écoute, ma fille, je tiens à te le dire, tu as prié pour rien. » Et pourquoi? Eh bien, parce que tu râlais tout le temps. Tu murmurais tout le temps, tu critiquais tout le temps. Mais mes frères et sœurs, ne vous faites pas piéger. Celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et celui qui résiste à Dieu, il s'attire une grande bénédiction. C'est ça qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Que celui qui résiste à Dieu attire une condamnation sur lui-même. C'est pour ça que moi, l'autre jour, j'étais dans une église. Écoutez-moi, il y a un pasteur qui m'a dit, « Monsieur Gau, vous avez bien fait de dire ça. Tous les chrétiens qui critiquent le président de la République, il discute avec les chrétiens, avec les frères et les sœurs. Il m'a dit, écoutez, je suis perturbé par ce que vous avez dit. Tous les chrétiens critiquent. Mes frères et sœurs, la Bible nous demande une chose. C'est de prier pour ceux qui nous gouvernent. Avant toute chose, on a même l'impression qu'il faut prier pour eux, avant nos enfants. Avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Est-ce que vous le faites? Seigneur, nous te prions pour le gouvernement. Si vous connaissez les noms, vous pouvez citer les noms. Ce n'est pas grave. C'est ce que Dieu nous demande. Vous entendez, mes frères et sœurs? Les chrétiens, ils devraient avoir l'œil ouvert quand vous verrez ces choses. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus? Moi, je lisais encore hier tous ces textes. Je les ai lus parce que j'avais à cœur de vous les apporter pour vous encourager. Ce que vous entendez ce matin, ça devrait vous faire du bien. Vous devriez dire, mais qu'est-ce qu'a dit Jésus lorsqu'il parle du temps de la fin? Cette colère, elle est là, elle va venir. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des broutilles parce qu'on parlait de paix. Gloire à Dieu, ce matin, vous avez pris la Sainte-Cène avec dans la paix? Quel bonheur de pouvoir se lever dans l'église et de prendre le pain et de le prendre avec reconnaissance. Mais la paix, mes frères et sœurs, quand l'église va être enlevée, elle n'existera plus. Vous ne pourrez pas vous coucher en paix. Ce soir, si Jésus n'est toujours pas encore revenu, vous pouvez fermer la porte à clé ou pas, c'est pas grave. Vous vous endormirez en paix. Le jour où l'église sera enlevée, il va y avoir un déclenchement de puissance de ténèbres. Il n'y aura plus la paix. C'est un des premiers signes. Si vous êtes toujours dans l'Apocalypse, quand il présente la colère de Dieu, c'est un des premiers signes. Le premier signe, c'est l'Antichrist qui arrive. On le verra pas. Il est certainement au milieu de nous. Enfin, au milieu de nous, pas ici. Mais au milieu de nous, vous avez compris, Apocalypse chapitre 6. Regardez. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des seaux et j'entendis un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est l'Antichrist qui vient sur la terre. Bien sûr, il vient d'une manière très séduisante, il va séduire tout le monde va l'admirer, parce que ce que vous voyez favorise la venue de l'Antichrist. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Regardez bien, mes frères et sœurs, ce qui va arriver presque de suite après l'enlèvement de l'Église. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Aujourd'hui, c'est impossible. Personne ne peut enlever la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est dans les chrétiens. Parce que le Saint-Esprit est dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit l'a promis. Jésus a promis que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Le châtiment qui est tombé sur Jésus au calvaire vous donne la paix. Alléluia. Ça, c'est un immense, immense bienfait. Pour moi, le pardon et la paix semblent les plus grandes vertus que l'on peut avoir sur la terre. La paix sera enlevée de la terre. Et regardez la conséquence. La conséquence. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Nous, on est là. Il s'est passé ceci au Mirail. Il s'est passé ceci au Texas cette semaine. Il s'est passé cela dans un restaurant, etc., etc. Mes frères et sœurs, ça va être mondial. Partout, 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 les hommes vont s'égorger les uns les autres. Vous croyez que le Seigneur, il blague quand il dit ça? Vous croyez qu'il exagère? C'est ce qui va... Nous ne le verrons pas, je vous promets. L'Église ne peut pas voir ces choses. Nous, mes frères et sœurs, nous devrions voir une chose. Nous devrions voir toutes les promesses de Dieu. Vous savez, quand on chantait ce matin ce cantique, une croix dressée, son sang est versé, tout ça. Mais moi, je pense à son sang, bien sûr. Mais je dis, Seigneur, que tu as été bon de nous laisser tous ces écrits. Vous savez, comment on l'a traité? Le Seigneur aurait pu ne pas nous dire tout ce qu'il nous a dit. Franchement, vous ne croyez pas que le Seigneur aurait pu nous punir un peu plus? Et lui, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il est tout le temps en train de dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ce matin, je voudrais que vous compreniez que ces paroles, je les ai vraiment reçues dans la prière. « Rassurez-vous, je suis avec vous, n'ayez pas peur. » Tant que je serai là sur la terre, tant que l'Église sera là, la paix et la grâce de Dieu peuvent vous être données et vous être données en abondance. Ce matin, vous pouvez partir le cœur blindé d'abondance. Vous le croyez ça? Le cœur rempli de confiance, le cœur rempli de joie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ne soyez pas troublés. Moi, je suis peiné. Bon, ça peut arriver. Un moment d'inquiétude. Le Seigneur n'a pas dit, c'est pas normal que vous vous inquiétez. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que quand tu t'inquiètes, on devrait dire de suite après, pardon. Seigneur, je dépose mon inquiétude parce que je peux te faire confiance. Ça peut arriver de s'inquiéter 5 minutes. Vous apprenez une mauvaise nouvelle, ça vous fait quand même une boule au ventre. Oui ou non? Mais entre avoir la boule au ventre 5 minutes, 2 heures, avoir 5 minutes de cafard, ce qui est tout à fait normal, on n'est pas des machines. Mais avoir le cafard pendant 3 semaines, pendant 3 ans, être inquiet pendant des années, parce que je ne sais pas si j'aurai ma retraite. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, si vous êtes sauvés par grâce, si vous avez accepté Jésus pour sauveur et pour Seigneur, il a promis qu'il serait votre Père et qu'il pourvoirait à tous vos besoins, ici-bas et pour l'éternité. Et il a même dit, lorsqu'on vous prierez, mais vous prierez, et vous direz en premier, Père éternel. Vous aimez le dire Père éternel ? Est-ce que vous croyez que Dieu est votre Père pour l'éternité ? Ça va durer quelque temps, ça. Pour l'éternité. Ça vous convient ? L'éternité dans la gloire, honneur, gloire et paix, on l'a lu. L'éternité sans poussière, mes sœurs. Est-ce que ça vous convient ? Sans aspirateur, sans rien. Ça vous va ? Sans faire à repasser. Ça vous va, mes frères et mes sœurs ? Vous croyez que je blague, hein ? Ne soyez pas troublés. Vous entendez le Seigneur vous parler ? Il te dit, mon frère, parce que tu es son enfant, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Le Seigneur te dit ce matin avec amour, avec tendresse, avec sévérité, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent rien. Il te dit, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Il en sera de même comme du temps de Noé, où la méchanceté était commune sur la terre. Elle était grande sur la terre. Les pensées du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. La terre était remplie de violence. Et Jésus ajoute dans la prophétie, il en sera de même. Mais vous, mes frères et sœurs, vous êtes à l'abri. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, vous pouvez voir des gens tomber. Vous pouvez en voir tomber 1000 à votre gauche, 10 000 à votre droite. Si vous restez dans le refuge, vous ne serez pas atteints. Parce que celui qui marche avec Dieu, la Bible dit que le diable ne le touche pas. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Que le malin ne peut pas toucher. Les gens, ils sont là, ils ont peur du diable. N'ayez pas peur du diable. Ayez la crainte de l'Éternel. Ayez le respect. Ne sortez pas. Moi, je compare ma vie, si vous voulez, à la conduite. Il ne faut pas sortir sur la bande d'arrêt d'urgence. Même pas sur la... Avant, je disais, sur la bande d'arrêt d'urgence, on peut s'y arrêter. Maintenant, je dis, écoutez, n'y allez pas. Restez dans les voies de Dieu. Ne détournez ni à droite ni à gauche. Soyez sérieux. S'il y a écrit 60, c'est une parabole. S'il y a écrit 60, roulez à 60. Ne vous amusez pas. Moi, je suis peiné lorsque je vois tous ces pasteurs qui chutent, tous ces chrétiens qui chutent, tous ces chrétiens qui divorcent. Ça nous brise le cœur. Parce que moi, je crois que Dieu a des solutions à tous nos problèmes. Vous croyez que Dieu a des solutions à tous nos problèmes ? Il est tout puissant. Quand il dit, mais ne vous inquiétez de rien, il faut que ces choses arrivent. Alors, ça va empirer. Priez, priez pour les frères et les sœurs. Priez pour les chrétiens en Asie. Priez pour les chrétiens en Israël. En Israël, c'est difficile d'être chrétien. En Israël, ils parlent de Dieu, ils parlent de la venue de Messie, mais je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait comme ça, comme nous on le voit. Et les chrétiens sont persécutés parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils le reconnaîtront qu'au retour. Vous savez, il y a une différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus. À l'enlèvement, c'est nous qui partons à sa rencontre dans les nuées. Au retour, c'est lui qui vient, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et normalement, vous ferez partie du voyage. Ça vous va le programme ? Est-ce que ça vous intéresse ? C'est ce qui est écrit. Et là, les Juifs se convertiront. Bon, il y en a une grosse partie qui va mourir ce jour-là. Parce qu'il y aura des guerres. En veux-tu ? En voilà, il y aura une telle oppression. Vous vous rendez compte ? L'Esprit de Dieu sera enlevé sur la terre. Le diable va se déchaîner parce qu'il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Mais nous, mes frères et sœurs, nous devons entendre le Seigneur qui dit ce qu'il a à nous dire. Regardez les prophéties, ce qu'on appelle eschatologiques, parce que quelqu'un me demandait ce que ça voulait dire cette semaine. C'est tout ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Eh bien, vous avez... Prenez garde à vous-même. Prenez garde que vous ne soyez séduits. N'écoutez pas tous ces charlatans. Il y a des chrétiens, moi, qui m'envoient de ces mails des fois. Monsieur Gault, est-ce que c'est vrai que l'enlèvement n'aura pas lieu ? Un pasteur a dit dernièrement que l'enlèvement n'aura pas lieu. Non mais, moi je sais pas. Est-ce que Dieu a le pouvoir d'enlever tous ces gens ? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de Dieu ?
Et il y a des chrétiens qui ne croient pas l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui ne croient pas Dieu. Mes frères et sœurs, si vous voulez être prêts, croyez tout ce que Dieu vous a dit. Et avant de lire, d'écouter des prophètes et des pasteurs que vous ne connaissez pas, lisez la parole de Dieu. Lisez-la. Lisez-la avec votre cœur. Ne la lisez pas qu'avec votre tête. Lisez-la avec votre cœur. Quand Jésus dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai. Et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, franchement, des fois, ça vous arrive de rêver ? Le soir dans votre chambre, ça vous arrive ? Quand vous dormez pas, qu'est-ce que vous faites quand vous dormez pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous rêvez ? Ça vous arrive de vous faire des films ? Ah, moi, c'est grave. Hein ? Moi, c'est grave. C'est grave. Des fois, je m'imagine dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Est-ce que vous imaginez la taille qu'aura la nouvelle terre ? Vous voyez, il y a des gens qui disent, par exemple, la taille, ça sera la même terre qui va être renouvelée. Écoutez, il est dit que Dieu, que cette terre, elle sera détruite. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et que Dieu créera de nouveaux cieux où la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Il n'y aura pas besoin de mer. Et la nouvelle Jérusalem, vous voyez, Toulouse à côté, c'est petit, petit, petit. Une ville de 2200 kilomètres de large. Si vous voulez venir me voir à pied. Une ville de 2200 kilomètres de haut. Est-ce que ça vous donne une idée de la grandeur de notre Seigneur qui a voulu que nous sachions ça? La nouvelle Jérusalem aura cette distance et tout sera en or. Ça vous va? Vous le croyez? Je vous disais l'autre jour qu'il y a une enfant, quand j'avais dit ça, elle m'a dit, en pleine prédication, « Monsieur Go, où Dieu a trouvé tout cet or ?» C'était mignon, vraiment. Mes frères et sœurs, tout appartient à Dieu dans les cieux et sur la terre. Et mes frères et sœurs, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que c'est écrit dans les contextes des prophéties? Que celui qui lit fasse attention. Quand Jésus dit « Veillez, priez, tenez-vous prêts, veillez à ce qu'il ne vous trouve endormi. » Tout cela, ça devrait nous éveiller, dire « Tiens, c'est vrai, je dois m'appliquer. » C'est écrit de s'appliquer et de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je m'applique. Il y a des gens, ils s'appliquent, ils veulent avoir tel résultat dans tel domaine, ils s'appliquent. Tous les jours, ils se mettent à faire un peu de sport ou un peu de régime, etc. Des choses qui sont importantes pour leur corps, pour leur foyer. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, tous les mois, je mets 50 euros de côté parce que je veux payer des vacances à mes enfants. Je m'applique. Est-ce que c'est bien ? Ben oui, ils y arrivent. Moi, j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à payer des vacances à leurs enfants parce qu'ils dépensaient l'argent. Et puis, ils se sont dit, non, je vais économiser dans une... Et ils l'ont fait. Et on y arrive. Mes frères et sœurs, en plus, vous ne croyez pas qu'on ne peut pas avoir le secours du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu nous demande ? Oui, on va entendre ces choses, on ne les verra pas. Soyez dans la paix, mes frères et sœurs. Est-ce que vous entendez ? Soyez dans la paix. Celui qui a confessé son nom dans les eaux du baptême, comme ça a été fait. Vous l'avez fait ? Est-ce que vous avez confessé le nom de Jésus dans les eaux du baptême ? On va lire deux textes, s'il vous plaît. On va les lire. J'aimerais que vous les relisiez, mais avec sérieux, mes frères et sœurs, que vous compreniez la pensée de Dieu dans Matthieu, chapitre 10. Regardez s'il est beau, ce texte. On l'utilise souvent lorsqu'il y a des baptêmes. Mais regardez, c'est notre Sauveur, notre Seigneur, qui a voulu que nous sachions ces choses. Matthieu 10, il le dit en plus, il le dit bien. Nous n'avons pas à craindre. Il me dit au verset 30, regardez Matthieu 10, 30. Même vos cheveux sont tous comptés. Comment vous l'interprétez ça? Comment vous l'interprétez? Bien sûr, pour certains, que Jérôme, vous voyez, monsieur Puet, monsieur de Dieu, tout ça, c'est. Vous allez me dire, mais c'est facile. D'accord. Mais mis à part l'humour. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Mais que Dieu contrôle tous les détails. Ça vous rassure? Il contrôle tout dans le ciel, tout sur la terre, tout dans notre tête. Ne craignez donc point, voyez, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Regardez bien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si on prenait ce verset à la lettre, on sortirait plein de joie. Quiconque, ça veut dire n'importe qui, quiconque se déclarera publiquement pour moi. Ça, c'est le baptême.
je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et vous pouvez dire franchement, amen. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, dans une lettre encore, justement à ceux qui font attention. C'est l'Apocalypse 3, regardez. Il y a des gens qui sont sérieux. Regardez, on va lire le verset 3 au verset 5. Regardez si c'est beau. Le Seigneur parle aux églises. Là, ça concerne l'église. Les trois premiers chapitres concernent vraiment l'église. Apocalypse, à partir du chapitre 4, ça concerne après l'église. Apocalypse chapitre 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Quand est-ce qu'il faut, combien de fois il faut se repentir, au fait? Ben, chaque fois que c'est nécessaire. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et là aussi, vous pouvez le dire. Amen. Est-ce que ça vous intéresse que Jésus soit votre avocat quand vous passerez devant Dieu? On ne sait pas comment ça va se présenter. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais il n'empêche une chose, c'est que la façon dont c'est dit, nous passerons devant Dieu, tout ce qu'on aura fait sera évalué, c'est écrit. Ça représente tout ce que vous, la façon dont vous avez donné votre dîme ce matin, voilà par exemple. Voilà, si vous l'avez fait de tout votre cœur, parce que c'est une grâce de donner, voilà, ça a de la valeur. Si vous l'avez fait pour le faire, il faut que je donne ma dîme, ça vaut rien, ne le faites plus. Quoique si, un peu peut-être. Parce que le trésorier va me dire, monsieur Go, qu'est-ce que vous avez dit? Mais il faut faire les choses avec cœur, mes frères et sœurs. Quand on fait quelque chose, Dieu voit comment on fait quelque chose. Est-ce que vous le savez? Tout ce que vous faites, quand vous priez, tout ce que vous faites, si vous le faites avec cœur, quand vous passerez devant Dieu, vous en aurez une récompense. Jésus va très loin pour ce qu'il dit même, celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, il recevra une récompense. La récompense, le verre d'eau froide, c'est la plus petite chose qu'on puisse faire. Lorsque vous téléphonez à une sœur pour avoir de ses nouvelles, si elle a besoin d'une visite, etc. C'est ça le verre d'eau, c'est des petits trucs, mais en fin de compte, quand on le fait de tout son cœur, eh bien, Dieu l'enregistre. Alléluia. Mais au-delà de la récompense, parce que ça va être quand même quelque chose de compliqué, ça, de merveilleux, il y a ce fait que Jésus ne sera jamais votre juge, il sera votre avocat. Ça ne vous rassure pas de savoir que Jésus sera votre avocat quand vous passerez devant Dieu? Il dira, je ne sais pas comment ça se présentera, le temps que ça prendra, mais le Seigneur sera votre avocat. C'est mon fils, le sang de l'agneau est sur sa vie. Alléluia. Ça va arriver, mes frères et sœurs. Et quand Jésus prend le temps de nous dire, mais ne vous troublez pas, ne vous inquiétez pas, que la paix soit sur vous. Vous avez vu combien de fois ne porte pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous avez vu le nombre de fois où le Seigneur s'applique à nous montrer qu'il garde, il garde les fidèles. Alléluia. Et nous devrions, mes frères et sœurs, avoir le cœur rempli de reconnaissance. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, sachez que c'est ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Je ne vois pas comment Dieu pourrait dire « Heureux celui qui lit ce livre », s'il va vivre ce qui est écrit dedans. Ce n'est pas possible. Et on pourrait en ajouter, vraiment, ce n'est pas possible. Par contre, il faut prier pour les vierges folles. Peut-être il y en a au milieu de nous, des gens qui sont hypocrites. Est-ce que ça peut arriver que dans les églises, il y a des gens hypocrites? Ils vont à l'église, mais ils vivent dans une vie de débauche, ils vivent à l'église, ils font du... les gens qui font du cinéma, il n'y en a pas? Et si vous en faites partie, moi je vous plains. Et c'est le moment où Dieu veut vous interpeller. Vous savez, ça fait deux fois, c'est grave ce que je vais vous dire, ça fait deux fois que je suis poussé à deux enterrements à demander pardon à l'auditoire de la part de la religion en France. Parce que les gens sont ulcérés lorsqu'ils entrent dans une église. Les gens sont écœurés. Ils entendent tout ce qui se passe, toute l'apostasie, la pédophilie et tout le reste. Et les gens sont écœurés contre les curés, les prêtres, les pasteurs, les évêques. Ils mettent tout le monde dans le même sac, bien sûr. Et c'est normal, ne les jugeons pas. Et moi, je vous assure, j'ai été obligé de leur dire, je vous demande pardon pour ce qui se passe dans les églises. Vraiment, je l'ai fait. Je l'ai fait consciencieusement. Je dis, parce que ça ne vous autorise pas à vous boucher les oreilles et il vous faut que vous vous prépariez à rencontrer Dieu. Parce que ce n'est pas parce que des pasteurs ont scandalisé les églises ou les curés et tous les religieux, que ça ne vous autorise pas à vous préparer à rencontrer Dieu. Vous comprenez? Ça ne vous dispense pas. Et ne dites pas, oui, les curés, les pasteurs, c'est tous des hypocrites. Il y en a. Je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça quand même. Et même s'ils étaient tous, vous devrez vous préparer à rencontrer Dieu quand même. Et à dire, Seigneur, il faut que je me prépare. Le Seigneur n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu si ton pasteur, il est sympa. Le Seigneur, il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si vous avez été blessé, parce qu'encore un frère me le disait cette semaine, que pendant 10 ans il a été blessé par la façon dont un pasteur scandalisait l'église. Mes frères, même s'il y a des gens qui vous ont scandalisé, ça ne vous autorise pas à vous tenir droit devant Dieu et à dire, Seigneur, qu'importe les autres, moi Seigneur, je te suivrai, qu'importe ce que les autres feront, moi je veux, quand je passerai devant Dieu, que le Seigneur Jésus confesse mon nom devant mon Père qui est dans les cieux. Je n'ai pas envie de me prendre le travers et de voir mon nom effacé du livre de vie. Vous avez envie, quand vous arriverez devant Dieu, que Dieu vous dise, Dieu, non, je ne sais rien. Ton nom, je regarde, je ne sais pas comment ça sera, les livres. Est-ce que ça sera une tablette? Non, mais je le pense. Je pense que Dieu doit être un peu plus, soyez au courant. Et perfectionné que nous. Et ton nom, Jérôme Fayot. Je pense qu'au jour du jugement, il va y avoir quand même. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Vous savez que dans le ciel, il y a un livre, et si vous êtes en paix avec Dieu, si vous vivez dans la repentance chaque fois que c'est nécessaire, si vous vous corrigez chaque fois que c'est nécessaire, ne jouons pas à la comédie, si vraiment nous savons demander pardon lorsque nous avons offensé quelqu'un. Vous avez entendu ce matin le don spirituel, une personne qui se traîne depuis des années parce qu'elle a enlevé que ceux qui se voyaient, elle a laissé les racines de l'amertume, j'allais dire pourrir sa vie. Ben oui, que c'est triste. Alors que nous avons un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui nous donne la force de pardonner. Si Dieu dit pardonne, croyez-moi qu'il va vous aider à pardonner. On le connaît maintenant. Si Dieu vous demande d'aimer, laissez-moi vous dire qu'il va vous donner la force d'aimer. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas possible si vous le connaissez. Ce que Dieu vous demande, il en fait les 3/4 de toute façon. Oui ou non? Alors mes frères et sœurs, si vous êtes une vierge folle, corrigez-vous ce matin. La porte va se fermer. La porte de la grâce va se fermer. Et il vaut mieux être à l'intérieur du bateau, je vous le dis. Parce que quand la porte sera fermée, toutes ces vierges folles, moi j'espère, je suis sûr, ça c'est moi qui le dis, c'est une parenthèse. Je suis sûr qu'après l'enlèvement, les chrétiens, enfin qui ne sont pas prêts, vont se jeter sur le livre de l'Apocalypse. Ils auront bien raison, remarque. Et ils vont voir que pour être sauvés, la grâce sera terminée. On sera sauvé comment pendant la grande tribulation? Comment on sera sauvé? Au prix de sa vie. Il y aura un système qui imposera, ça sera terrible, parce que le chaos va faire que pour acheter un kilo de pain, il faudra travailler toute la journée. C'est écrit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur toute la terre. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, à part les riches qui ont l'air d'être épargnés, les très riches, puisqu'il est dit ne touche pas à l'huile et au vin, bon ça c'est autre chose. Mais mes frères et sœurs, une chose est certaine, pour acheter un kilo de pain, 3 ou 4 flûtes de pain, il faudra travailler toute la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'état dans lequel sera le monde, c'est ce qui va arriver. Et il y a plein de chrétiens qui ne le captent pas, ils le croient sans le croire. Croyez-le, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu prend soin. Aujourd'hui, Dieu vous donnera tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de manger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de manger, qui n'aurait pas mangé chez lui? Vous savez que Dieu pourvoira. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Et si Dieu ne pourvoit pas d'une manière miraculeuse, eh bien, il pourvoira d'une façon fraternelle, parce qu'on sera là pour vous aider. On le fait, et hier encore, j'ai reçu un chèque de monsieur, vous voyez, un monsieur qui, ça fait 20 ans, on lui avait donné de l'argent, et il m'a envoyé un chèque, monsieur Gaud, j'ai une entreprise, le Seigneur m'a montré qu'il ne pouvait pas bénir mon entreprise, parce que j'avais promis que je donnerais de l'argent, que l'argent qu'on m'avait prêté à l'église, et vous voyez, il a eu à cœur, et Dieu va le bénir. Quand on fait ce que Dieu nous demande, ben Dieu nous bénit. C'est pas vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu est votre Père? Est-ce que ce soir vous pourrez vous endormir en disant « mon Père qui est aux cieux ». Vous vous rendez compte, le Dieu du ciel, vous pouvez l'appeler « mon Père ». Quand vous le verrez dans le ciel, vous direz « mon Père, mon Père ». Ça s'arrête là, hein? Mon Père, ça suffit. On va fermer les yeux et lui demander sa grâce. À tous ceux qui écouteront ce message sur Internet, que tous puissent appeler Dieu Père, Père éternel. Non pas mon juge qui me condamnera, mon Père qui me défendra. Notre Père, si tu demandes aux hommes qui lisent de faire attention, c'est ce que nous avons voulu faire ce matin, faire attention à ce que nous lisons. Tu nous parles de grâce éternelle, tu parles de mort éternelle. Nous voulons être sérieux, Seigneur, avec notre salut. Sérieux avec ta parole. Nous te remercions pour toutes ces paroles d'encouragement qui font que nous n'avons rien à craindre, que nous n'avons pas à être troublés, que ta paix nous gardera, que ta gloire nous est réservée, que l'honneur nous est réservé. Seigneur, merci. Vraiment merci pour toutes les paroles qui sont là, gravées dans le Saint-Livre et qui nous permettent de redresser nos têtes et d'attendre ce moment avec une immense joie. Ce jour où, revêtus de vêtements blancs, nous retrouverons tous les bien-aimés qui nous ont précédés et surtout toi, notre Sauveur, quand nous serons heureux de jeter à tes pieds les couronnes. Quel jour, Seigneur, quel jour! Donne-nous de faire tout d'une manière intelligente, que ce soit même un petit verre d'eau, que ce soit une petite chose, donne-nous de le faire toujours, de tout notre cœur pour toi. Que ce soit de l'argent, que ce soit des services, qu'importe, tout ce que nous ferons, Seigneur Jésus, donne-nous de l'intelligence pour le faire de bon cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.